RSE Time avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.
Salut tout le monde, c'est Marius avec les locataires sur Radio G. Je suis donc avec tout le monde, Titouan.
Salut.
Gaspard.
Salut les auditeurs.
Et Félicien.
Salut.
Vous allez bien?
Super.
Alors ouais, aujourd'hui, le thème de l'émission portera sur l'eau et ses différentes utilisations. Comme d'hab, on va vous faire écouter une musique, on va discuter, débattre, bref, approfondir le sujet. Je laisse la parole à Gaspard pour sa chronique.
Alors bonjour, moi je vais faire une petite chronique sur le dérèglement du cycle de l'eau. Donc je vais peut-être commencer par vous expliquer ce que c'est que le cycle de l'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, l'eau elle est stockée dans des grands réservoirs. Déjà, il y a les océans qui contiennent 97% de l'eau, c'est énorme. Mais cette eau, vu qu'elle est salée, ben, elle nous sert à rien. Et le reste de l'eau, l'eau douce ou l'eau disponible, comme vous voulez, elle est contenue dans les pôles, les nappes phréatiques, le sous-sol, en surface, dans les lacs, les rivières, les glaciers aussi, dans l'atmosphère et dans les êtres vivants. Et oui, les êtres vivants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont constitués à 2/3 d'eau, en moyenne. Donc naturellement, l'eau des océans et des lacs, elle s'évapore pour aller dans l'atmosphère. Et celle contenue dans les êtres vivants aussi, mais ça s'appelle l'évapotranspiration. Et au bout d'un moment, cette eau, elle retombe sur Terre, ou dans la mer, même principalement dans la mer. Ça, c'est le cycle de l'eau. Le problème, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, l'air ambiant se réchauffe, surtout en été. Donc l'eau douce, elle s'évapore et elle va s'accumuler dans les nuages. Ça engendre des pluies de plus en plus fortes, mais de plus en plus rares, ce qui provoque des sécheresses. Tout ça, c'est des perturbations qu'on pourrait qualifier sur de temporelles. Mais il y a aussi des perturbations sur une échelle plutôt géographique. Par exemple, dans le nord ou le Pas-de-Calais, cet hiver, il y a eu des graves inondations. Et puis, contrairement, dans les Pyrénées-Orientales, il n'avait pas plu depuis presque 2 ans. Et puis, il n'y a pas que l'évaporation de l'eau qui dérègle le cycle. Il y a aussi son accaparement par les industries, qui représentent 17% de la consommation d'eau dans le monde. Ce sont plutôt les usines de textile, la production d'énergie et l'exploitation minière qui accaparent cette eau. Il y a aussi les collectivités qui, par exemple, construisent des réserves de substitution en pleine montagne pour alimenter les canons à neige des stations de ski. Mais le pire, c'est l'agriculture. Ça représente 70% de la consommation d'eau dans le monde, et principalement pour l'irrigation des grandes cultures. Bref, ces sécheresses ont des impacts sur la biodiversité aquatique notamment, mais aussi sur les arbres, les haies, la faune et la flore, quoi. Il y a aussi des conséquences sur l'agriculture, sur les rendements des cultures, mais aussi sur les élevages. Les productions de fourrage et l'abreuvement des animaux sont aussi impactés par les sécheresses et les restrictions. Et puis évidemment, il y a les conséquences sur l'homme. En France, ces conséquences sont traduites par des restrictions, mais aussi dans le monde, c'est plus d'un million de personnes, même plusieurs millions de personnes qui n'ont pas directement accès à l'eau. Et c'est ça, c'est souvent dans les pays pauvres.
Bah, merci Gaspard pour cette chronique. Vous avez envie de revenir sur ce qu'il a dit, échanger sur ce thème ou...
Bah ouais, c'est quand même fou que les grandes industries, l'agriculture accaparent cette eau, donc en soi elles volent cette eau, tout ça au profit de l'industrie et elle n'est pas, du coup elle n'est presque plus destinée à la population alors que l'eau c'est vraiment... essentiel pour vivre, quoi.
Vas-y, Gaspard.
Bah oui, je voulais revenir sur l'agriculture. Donc, je voulais revenir sur l'irrigation. Pour approfondir le sujet, il faut d'abord comprendre qui irrigue. Il faut savoir que 6,8% des terres agricoles en France métropolitaine sont irriguées. Ce sont les producteurs de maïs qui irriguent le plus, avec 41% des terres irriguées, suivi des productions de blé avec 18% des terres irriguées, et les productions de légumes qui représentent 9%. L'irrigation se fait grâce à différents systèmes. 80% des irrigants utilisent l'aspersion, soit avec un enrouleur, soit avec des rampes. Le problème de ces systèmes, c'est qu'ils gaspillent beaucoup d'eau par évaporation. Mais il existe aussi d'autres systèmes. Par exemple, il y a la micro-aspersion ou le goutte-à-goutte qui consomme vraiment beaucoup moins d'eau. Par contre, ça nécessite plus de plastique, notamment pour le goutte-à-goutte. L'irrigation se fait généralement quand il n'y a plus d'eau pour que les cultures poussent correctement. C'est aussi un moment où les réserves naturelles d'eau sont affaiblies. Donc environnementalement, l'irrigation a un impact plutôt négatif. Mais il y a des productions, comme les productions maraîchères, qui ne peuvent pas faire sans l'irrigation. on peut quand même différencier deux types d'irrigation. Il y a l'irrigation qui vise à maximiser les rendements et l'irrigation dite de résilience ou de sécurité, qui a pour but plutôt de sécuriser les productions agricoles.
Vous voulez encore revenir sur ce qu'il a dit ?
Bah oui, c'est quand même intéressant de se dire qu'en fait, ils irriguent autant alors qu'on pourrait choisir d'autres cultures qui ne seraient pas adaptées et du coup changer justement les types de production, même si c'est facile à dire par rapport à ce qu'on peut faire, mais changer, c'est-à-dire trouver des alternatives pour consommer moins d'eau.
Vas-y Gaspard.
Bah oui, en fait, y a différentes alternatives. On peut essayer de valoriser plus les cultures d'hiver, genre le blé dur, le tournesol. Il y a le sorgho aussi qui remplace le maïs. Le maïs, je rappelle, c'est 41% de l'utilisation de l'irrigation. Donc le sorgho, c'est une plante qui, à peu près, c'est similaire au maïs, sauf que ça consomme presque pas d'eau. Enfin, c'est pas besoin d'irriguer. Il y a le colza aussi en culture d'hiver. Il y a les légumineuses, le pois chiche, le soja, tout ça, ça nécessite vraiment très peu d'eau. Il y a même des variétés qui sont adaptées à des zones carrément arides, genre le quinoa, le sarrasin.
Toi ?
Et je pense que irriguer des cultures qui sont destinées à nourrir les élevages intensifs, ça n'a vraiment aucun sens. Ou irriguer des cultures en pompant les nappes phréatiques, tout ça pour que ces cultures partent à l'export pour les autres élevages intensifs comme les porcheries ou les poulaillers industriels. C'est vraiment un non-sens total. Et alors que l'eau, il faut la préserver, la protéger. Et ça va être c'est un bien vital. Et cette ressource va être de plus en plus rare. Donc, il est vraiment urgent d'arrêter d'en faire ce qui n'est pas bien avec, quoi.
Vas-y, Gaspard.
Et puis, il y a des cultures qui sont utilisées pour l'industrie et puis les élevages industriels. Et puis, tout à l'heure, on a parlé du maraîchage. Le maraîchage, on a dit que les maraîchers ne peuvent pas trop faire sans irriguer. Et puis, il faut savoir que le maraîchage, ça ne nourrit pas des animaux. Le maraîchage, ça fait des productions légumières qui nourrissent directement l'homme, notamment le développement du maraîchage en circuit court qui nourrit carrément les populations localement.
Félicien.
Et puis aussi, on peut revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, l'irrigation justement par évaporation. Tu as dit qu'il y avait une bonne partie qui s'évaporait quand on aspergeait. Est-ce cohérent encore d'utiliser ça alors qu'on sait qu'il y a une très grande partie qui va finir évaporée parce que en plus, quand on arrose, quand il y a besoin d'eau, c'est en période de sécheresse souvent. Et justement, du coup, cette partie d'eau va forcément servir à pas grand-chose.
Bon, bah, merci tout le monde pour cette discussion. Maintenant, place à la musique. C'est un titre qui s'appelle Un gamin de Zoufris Maracas. Et bonne écoute à tout le monde.
Tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christ, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin, un gamin de gamin, 6 milliards de gamins, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, mais tu es un flic, affolé de bandits, salauds vendus, de représentants de la force publique. tu étais né ou je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Les armes que tu as chez moi, de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable, mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un.
Tu es un flic, affolé de bandits, salaud de vendus, représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire, tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Yes, c'est les armes que tu as coupées chez moi. Papier, les armes que tu as vendues chez moi.
J'en oubliais les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. Directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Chez moi, tu les as coupés où? Tu les as coupés chez moi. Et tu viens me demander quoi?
C'était Zoufris Maracas, un gamin. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, Félicien nous a préparé un petit jeu, donc je vais le laisser le présenter.
Alors oui, du coup, j'ai préparé un jeu sur la thématique du coup de l'eau. Donc on va commencer par une première question. Donc combien de mètres carrés d'eau utilise-t-on par an pour l'agriculture en France? Alors je vais vous évoquer du coup plusieurs propositions. Donc réponse A, 900 millions de mètres carrés d'eau par an. Réponse B, 2,36 milliards de mètres cubes d'eau par an. Réponse C, 3,4 milliards de mètres carrés d'eau par an. Qu'en pensez-vous? Oui, Marius?
Je dirais la réponse B, 2,26, c'est ça? 2,26 milliards
2,36, et non, c'est pas celle-ci.
C'est plus?
Oui.
Je sais plus, t'as dit quoi en deuxième?
Justement.
Non, en troisième?
Oui, oui. Et bah, c'est 3,4 milliards d'eau.
Ah ouais?
Oui, alors du coup, c'est plus de la moitié de l'eau qui est utilisée par la population française chaque année est à destination de l'agriculture pour les cultures qui demandent beaucoup d'eau. Et le reste est pour, surtout pour l'industrie et l'utilisation domestique.
Ok.
Du coup, on va pouvoir enchaîner avec une deuxième question. Donc. D'après vous, comment l'eau est stockée pour les cultures dans le domaine agricole? Vas-y, dis-toi.
Bah, je pense qu'elle est stockée de différentes manières. Il y a plusieurs sortes de stockage de l'eau. Et je pense notamment aux méga-bassines, on a entendu parler beaucoup ces dernières années. Ou alors des étangs ou des mares pour pomper l'eau dedans.
Ouais, puis je crois qu'il y avait aussi, il y a des paysans qui pompent dans des rivières aussi. Les rivières sont utilisées, tous les cours d'eau. Et puis les nappes aussi. Je crois qu'elles sont utilisées pour les bassines. Et je crois qu'il y a des paysans qui pompent directement même juste pour irriguer sans intermédiaire de bassine.
Oui, oui, c'est ça. Mais les rivières, après, c'est plus limité, surtout en période quand on arrive en période estivale. Mais puis il y a aussi des fois des puits que les gens ils ont chez eux ou des citernes. Mais oui, ils pompent aussi oui, dans les nappes phréatiques, c'est ça.
Comme ah oui, dit. Et puis je crois qu'il y a aussi des forages. Il y a des paysans ou des maraîchers qui font des forages, des grands, du genre de puits hyper profonds quoi, qui vont dans les nappes.
Oui, oui, il y en a, ils font ça, mais il y a des restrictions aussi à ce niveau-là sur certains points. Et du coup, ouais, l'eau, c'est bien une ressource rare et qui est limitée en utilisation en période surtout estivale et de sécheresse. C'est pour ça que les agriculteurs vont les garder et les stocker dans des endroits comme on a pu évoquer là à l'instant. Et, je vais pouvoir enchaîner avec une troisième petite question. Donc, comment irrigue-t-on les cultures ?
Y a plusieurs façons d'irriguer les cultures. Il y a le goutte à goutte.
Oui.
Ouais, il y avait les asperceurs, les fameux enrouleurs, tout à l'heure on en parlait, qui consomment pas mal d'eau, qu'on gaspille.
Oui, oui, il y a ça aussi, ouais.
Et il y a aussi l'aspersion par grand jet avec de tuyaux d'eau, autres que les enrouleurs. Par exemple, en faisant du maraîchage, ils peuvent utiliser le goutte à goutte, mais aussi des systèmes d'aspersion. Autrement.
Ouais, et je sais qu'aussi il y a les systèmes comme ça, un peu de culture d'irrigation moderne, mais je sais qu'il y a plein de systèmes qui existent, genre les Oya, c'est les espèces de pots intercuites qui sont enterrés dans la terre, on met de l'eau dedans, on les remplit, et puis vu que c'est de la terre cuite, le récipient, et qu'il est enterré, c'est une genre de transpiration, l'eau elle sort petit à petit du récipient, et puis c'est pour une utilisation à petite échelle, mais. Comme ça, ça irrigue en continu, l'eau elle sort en continu, c'est très lent. Et puis les racines elles viennent se coller au réservoir, à l'Oya, pour récupérer l'eau petit à petit. Et c'est un système qui est utilisé dans des pays où il y a moins d'eau ou quand il y a des sécheresses.
Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Après, c'est souvent oui, à plus petite échelle vu que c'est pour chaque plan. Et oui, tu voulais dire autre chose, Tito ?
Ouais, j'ai appris ça aussi. Il y a aussi des systèmes de marée haute, marée basse où on met de l'eau dans des bacs en dessous des pots. C'est aussi à plus petite échelle. Ils utilisent beaucoup ça pour le maraîchage, mais pas du tout pour l'agriculture, par exemple, les grandes cultures notamment. Et du coup, l'eau, elle vient par les racines en dessous des pots sans irriguer au-dessus sur les plantes.
Mais ouais. Oui, c'est vrai. On voit souvent ça aussi dans les serres, ouais. Ils mettent ça en hauteur et dans des bacs, justement.
Ouais, et sur l'irrigation, je voulais revenir sur un truc. Sur ce système de marée haute, marée basse, là, c'est aussi utilisé pour mettre des intrants ou des pesticides. Ça arrive. Par exemple, ils diluent les pesticides ou les intrants dans l'eau. Puis comme ça, c'est mélangé à l'eau et ça va directement à la plante. Ou même, pas que par ces systèmes de marée haute, marée basse. Il y a aussi, par système de micro-aspersion, notamment en horticulture, je sais qu'il y en a qui utilisent ça et qui mettent ce qu'ils veulent apporter en pesticides et en apport dans l'eau directement. Donc bon, ça peut poser problème par rapport au fait que si elle l'évaporation, si ça finit dans la nature, ça c'est un autre débat.
Oui, oui, t'as raison, ouais, ça existe aussi. Ouais. Mais du coup, je vais pouvoir continuer. Et du coup, quel est le meilleur type d'irrigation qui utilise le moins d'eau ? Du coup, je vais vous citer plusieurs types d'irrigation. Donc, réponse A, par le tuyau d'arrosage, donc comme on peut trouver chez nous dans le jardin. Réponse B, par le goutte à goutte. Réponse C, par un enrouleur. Ou réponse D, par des drones ou hélicoptères qui arrosent et aspergent en hauteur dans des champs. Oui, Marius.
Ça m'étonnerait très fortement que ce soit la dernière, mais je dirais le goutte à goutte.
Oui, 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 c'est ça, c'est le goutte à goutte, bien sûr, parce que c'est le meilleur type d'arrosage car il va permettre de diffuser l'eau juste au pied de la culture et ainsi de l'économiser Par contre, ça a un peu un désavantage parce que ça utilise beaucoup de plastique et faut un peu des kilomètres et des kilomètres de plastique pour mettre au pied des cultures sur des grandes parcelles.
Oui, c'est le meilleur en termes d'économie d'eau, mais par contre, c'est plus compliqué. Ce que je veux dire, c'est que dans une grande parcelle, ok, ça gaspille de l'eau, mais par contre, c'est quand même une solution beaucoup plus simple d'utiliser un enrouleur. Enfin, la meilleure solution, elle n'existe pas vraiment parce qu'il y a toujours des désavantages. C'est meilleur selon quoi ? Selon l'économie de plastique, selon l'économie d'eau, le gain d'eau qui est fait. Voilà, je voulais rajouter ça.
Oui, je suis d'accord avec toi totalement, mais c'est que ça va éviter aussi une évaporation moindre.
Oui, tout à fait.
Sur cette technique, ouais.
Bon, bah merci beaucoup Félicien pour ce magnifique jeu. On va passer au débat, qui est la problématique sera les méga-bassines répondent-elles à l'enjeu climatique ? Mais tout d'abord, Titouan voulait faire une petite présentation de ce que c'est une méga-bassine. Donc je te laisse la parole, Titouan.
Oui, alors les méga-bassines, c'est quoi ? Donc c'est des grands réservoirs artificiels remplis d'eau utilisés pour irriguer des cultures agricoles. Les méga-bassines, elles sont recouvertes de plastique sur une surface moyenne de 8 hectares. Il faut savoir que la plus grande méga-bassine de France fait 18 hectares, soit l'équivalent de 300 piscines olympiques. Et pour remplir ces bassines d'eau, les agriculteurs pompent dans les nappes phréatiques ou les rivières. Donc les bassines ne sont pas remplies avec de l'eau de pluie comme certains peuvent le penser. Et les premiers projets de bassines ont commencé dans les années 1990. Et aujourd'hui, il y en a entre 1000 et 2000 bassines en projet ou bien déjà construites. Et certaines d'entre elles ont été construites illégalement et d'autres ont été détruites par des opposants. Le territoire où sont principalement installées ces bassines sont la région de la Nouvelle-Aquitaine, notamment avec le département de la Vienne et des Deux-Sèvres, et aussi un petit peu en Pays de la Loire. Et les bassines sont construites pour faire face à la raréfaction de l'eau, donc en lien direct en fait avec le changement climatique, sauf que la ressource en eau pourrait diminuer de 40% d'ici les années 2050. Donc il va y avoir vraiment un problème de la gestion de l'eau dans les années à venir, déjà qu'il y en a un gros aujourd'hui. Et pour les agriculteurs, ils disent que les bassines permettent de sécuriser leur rendement agricole avec l'aide de l'irrigation. Donc on peut parler des bassines maintenant pour le débat.
Bah, place au débat. Vas-y, Gaspard, ouvre le bal.
moi, je voulais revenir sur cet argument-là. Les bassines, c'est un argument qui est vachement utilisé par ceux qui défendent les méga-bassines. Ils disent que ces bassines répondent à un enjeu climatique puisqu'elles permettent de stocker l'eau en hiver quand il y en aurait trop et de la réutiliser en été pour éviter de pomper dans les nappes. Donc ça, c'est un peu l'argument phare des gens qui sont pour les bassines. Et donc, si on pompe en hiver, on évite de l'utiliser en été. Sauf que ce qui pourrait être un peu dénoncé, c'est le fait qu'en hiver, il n'y a pas forcément trop d'eau. Il y a des inondations à certains endroits, mais pas partout. Et si on pompe dans les cours d'eau en hiver, ça veut dire qu'on modifie un cycle qui est fragile, le cycle de l'eau, et on modifie les débits, on modifie la quantité qui est naturellement réglée.
Vas-y, dis-toi.
Oui, en plus, les modèles des bassines, c'est pas un modèle viable, parce que certaines années, il peut pleuvoir des années comme l'année 2024 aujourd'hui, mais par exemple en 2022 ou même en 2023, il y a eu des grosses sécheresses. Du coup, l'eau est devenue rare, déjà qu'il n'avait pas plu beaucoup l'hiver. Et en plus de ça, l'été, il faisait des sécheresses, il faisait des fois 35 degrés ou plus. Du coup, il y a une énorme évaporation de l'eau parce que ces bassines, elles sont à l'air libre sur des hectares et des hectares. Donc, il y a 20% d'évaporation, c'est quand même énorme. Et il vaut mieux cette eau, la préserver dans les nappes phréatiques au lieu de la mettre en surface, et pour qu'elle soit en plus contaminée par une bactérie qui s'appelle la cyanobactérie, et du coup qui des fois l'eau ne peut pas être utilisée quoi.
Ouais, et puis cette évaporation elle est double puisque elle est au niveau de quand l'eau est stockée dans la bassine, et aussi cette évaporation elle est au moment de l'irrigation justement. Et ce qu'il faut savoir sur cette irrigation, les paysans qui soutiennent ces bassines disent qu'ils ne vont plus irriguer en été grâce à ces bassines. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que c'est vrai. Si c'est vrai, bon, ce serait déjà une avancée, on économiserait de l'eau en été, on pomperait moins dans les nappes. Par contre, si ces modèles de bassines sont pour irriguer en été avec l'eau des nappes plus la stocker en hiver avec l'eau des nappes, c'est pire qu'avant puisqu'on pompe deux fois l'eau dans les nappes dans l'année. Donc ce serait pire.
Vas-y, Félicien.
Et puis on se rend compte en plus, déjà c'est des grandes superficies, du coup en plus ça fait perdre des terres qui pourraient être cultivées. Et en pompant justement dans cette nappe phréatique, on va entraîner l'affaissement des sols aussi, car il n'y aura plus d'eau du coup sous terre et les sols vont plus arriver trop à se tenir. Et sachant que quand on regarde les endroits où des méga bassines sont construites, c'est surtout dans des zones pas loin de zones humides, surtout en Aquitaine, on est à côté du marais Poitevin. Est-ce cohérent justement de faire ça à côté de zones comme ça qui sont humides et en plus qui vont dévaster le paysage, et ça n'a pas trop de sens quoi.
Gaspard ?
Ouais, pour revenir à ce que tu disais, les fameux sols qui s'affaissent, il y a eu ça dans des pays du sud, des pays de l'Arabie Saoudite, où je sais pas si vous avez l'image en tête, mais ces champs complètement ronds, circulaires, où l'eau était remontée par des forages et qui était tout le temps irriguée puisque il y avait plus assez d'eau de pluie pour faire pousser les cultures. Et il y a eu des endroits où tellement l'eau souterraine a été pompée que ça s'est effondré. Ça s'appelle des dolines. En fait, c'est que la structure de la nappe, elle se tient plus parce qu'il y a plus d'eau, et du coup ça s'écroule jusqu'à la surface et ça a créé des cratères, enfin des trous dans le paysage, dans le sol quoi, de plusieurs centaines de mètres de diamètre, des trucs énormes. Et donc déjà les nappes sont à vide, et puis en plus ça fait des zones où on peut plus rien en faire quoi.
Félicien.
Oui, puis du coup ces zones là du coup vont s'affaisser, mais du coup ces nappes phréatiques, vu que le sol va s'affaisser, vont disparaître en même temps. Donc ils pourront plus pomper en plus pour stocker leur eau. Donc c'est un peu un cercle sans fin.
Dites-moi.
En plus ça n'a vraiment aucun sens parce que ces bassines, elles profitent à l'agro-industrie, aux fermes énormes qui ont des centaines et des centaines d'hectares pour des cultures qui participent pas à la souveraineté alimentaire du pays, parce qu'elles sont soit destinées à l'export avec des cultures de maïs, ou soit destinées à de l'agriculture intensive qui, elle aussi, leur production va être exportée. Et par exemple, là, dans le Puy de Dôme, il y a des projets de bassines qui sont bientôt en projet, qui font 36 hectares pour deux bassines qui pomperaient dans l'Allier et dans les nappes phréatiques pour une poignée d'exploitants énormes qui ont des centaines et des centaines d'hectares, notamment Limagrain, qui est le quatrième exportateur de blé au monde. Donc c'est énorme. Dans le Puy-de-Dôme et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des silos Limagrain partout. Et ces cultures-là, elles ne sont pas destinées pour nourrir la population française, mais pour au final qu'elles partent à l'export. Donc justement, les agriculteurs, il faut les former pour qu'ils trouvent un autre modèle agricole et qu'ils participent à la souveraineté du pays en vendant leur culture autrement et en faisant une autre agriculture que celle-ci qui produit du maïs de façon intensive en pompant l'eau et non en la laissant aux populations locales, quoi.
Gaspard ?
Oui, et je voulais revenir sur qui était plutôt contre et qui était plutôt court ces projets en termes de syndicats. Donc, de ceux qui sont contre ces projets de mégabassines, il y a la Confédération Paysanne, et ceux qui sont plutôt pour, il y a la FNSEA. donc le syndicat majoritaire, et la coordination rurale. La Confédération paysanne, elle est contre le système de bassines, mais elle n'est pas contre l'irrigation, puisqu'il y a des paysans qui sont syndiqués aux, plusieurs, aux différents syndicats qui irriguent. Et ce que je veux dire, c'est que il y a aussi différents types d'irrigation. Il y en a qui s'opposent, pas forcément à l'irrigation, mais qui s'opposent à la taille de l'irrigation. Ces bassines, je ne sais plus c'était combien, 18 hectares, 16 hectares. C'est des superficies énormes. C'est pour irriguer des grands champs. C'est aussi l'argument des opposants, c'est de dire on n'est pas contre l'irrigation, on est contre cette échelle d'irrigation qui est complètement dingue. Je rappelle juste que 70% de la consommation d'eau, c'est l'agriculture, quoi.
Dis-toi.
Et il faut aussi rappeler que les bassines, elles sont financées par de l'argent public, et notamment des fois à 70% d'argent public. Donc c'est nous, enfin nos parents plutôt, qui payons. Contribuons à payer ces mégabassines par les impôts et les taxes, alors que ces bassines profitent à l'agriculture intensive. Donc il faut, au lieu de mettre cet argent dans les bassines, il faudrait plutôt favoriser l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique, aider à ce qu'ils s'en sortent, aider les maraîchers par exemple qui irriguent mais qui sont en galère financière et climatique, avec notamment des cultures qui sont difficiles à faire avec les aléas climatiques qu'il y a. Et donc, au lieu de financer ces bassines, il faut vraiment former et aider les personnes à s'installer en agriculture paysanne pour installer de nombreux paysans et paysannes en France, au lieu de cultures vraiment destinées à l'export ou bien à l'agriculture intensive.
Gaspard,
Là où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il faut pas... Là où je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il faut pas forcément aider les paysans dits d'agriculture raisonnée, biologique et tout ça. Enfin, si, il faut les aider, mais pas que eux, en fait. Il faut accompagner tous les paysans, même les paysans qui irriguent en masse. Il faut les aider à approfondir leur transition écologique. Il faut accompagner tout le monde, parce qu'on peut pas dire on aide certains et puis on délaisse les autres et puis on rejette la faute sur eux. Faut accompagner tout le monde pour leur expliquer qu'est-ce qui est intéressant dans leur système, qu'est-ce qu'il faudrait changer parce que ça va plus. Donc je pense pas qu'on peut dire faut accompagner certains et puis les autres on les laisse, quoi.
Félicien.
Oui, et puis en plus ces mégabassines, on les met vraiment sur des endroits où on voit bien, du coup ça participe à l'agriculture conventionnelle, mais c'est surtout aussi sur des endroits où on voit que du open field, tout ça, des terrains qui sont déjà très pompé au niveau des éléments qu'il y a dans le sol. On les assèche vraiment à ce niveau-là, et ça participe encore à ces grandes cultures qu'on fait un peu de la monoculture, justement, et comme me disait Titouan tout à l'heure, qui vont aller vers l'étranger et justement qui participent même pas à une autonomie du pays en production au niveau des cultures.
Oui, dis-donc.
Oui, il faudrait vraiment plutôt aider ces agriculteurs qui construisent des mégabassines, à les aider à financer des plantations de haies, et justement les aider aussi à se convertir dans un autre système d'agriculture, parce que leur système, il n'est pas viable face au changement climatique. On a une urgence climatique sans précédent. Et il va falloir les aider à se convertir, parce que leur modèle n'est pas possible à continuer dans les années futures. Donc il faut vraiment, au lieu de subventionner ces bassines, les aider à favoriser le climat.
Merci pour ce débat. N'hésitez pas à le continuer chez vous, et surtout n'hésitez pas à les mobiliser contre les méga-bassines, parce que mobiliser, c'est dangereux, mais ne rien faire, ça l'est encore plus. C'était Les Locataires sur Radio G. Topette.
Salut tout le monde.
Salut Topette.
Salut Topette.